Voilà, bonsoir. Donc, j'interviens dans ce cycle qui concerne le 19e siècle. Et évidemment, on peut dire que le 19e siècle est un siècle crucial pour l'évolution de la notion de laïcité. Je dis que c'est évident parce que, bon, c'est un siècle dans lequel on se trouve d'abord après, en France, après la Révolution française. Et donc, après les soubresauts révolutionnaires, il va de soi que la position des églises dominantes, comme l'église catholique en France et puis dans la future Belgique, est une position qui est petit à petit affaiblie. Mais bon, c'est un mouvement qui se passe dans le courant du 19e siècle et bien sûr au 20e siècle. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, quand on parle de laïcité, on utilise la notion et la notion est confuse. C'est-à-dire que souvent, on met des significations très différentes derrière le mot laïcité. Je dirais que c'est tout à fait normal. C'est en particulier normal en démocratie. Les gens parlent librement et après tout, ils mettent derrière les mots qu'ils utilisent le contenu qu'ils veulent. Mais il est clair aussi que ça crée des confusions. C'est-à-dire que si on veut se mettre d'accord sur une notion, ben, il faut essayer d'être un petit peu rigoureux. Alors cette rigueur n'existe que dans les disciplines très techniques, vous savez, où quelques savants se mettent d'accord entre eux pour décider qu'il faut donner tel ou tel nom à telle ou telle chose. Par exemple, les astronomes ont décidé, il y a quelques années, que Pluton n'était plus une planète, mais que c'était une planète naine. Et bien entendu, ils ont des critères qui sont assez précis. Ils se mettent d'accord sur la terminologie et ça fonctionne comme ça. Mais ça ne fonctionne évidemment jamais comme ça, avec des notions dont le succès fait qu'elles sont utilisées à différents niveaux. Au niveau académique, au niveau scientifique donc, au niveau politique, juridique, journalistique, dans les discussions communes, au niveau historique, etc. Et donc évidemment ces notions deviennent extrêmement confuses parce qu'on les utilise beaucoup et que plus on les utilise, plus il y a de chances qu'on les utilise dans des sens différents. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord de donner une sorte de définition de travail de la laïcité pour qu'on s'entende. Je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est nécessaire, même si après, on peut aller plus à fond et entrer dans des détails, des différenciations. Mais au départ, je pense qu'il faut avoir une notion assez générale sur laquelle on puisse travailler. Bon. Parce que vous savez, le mot lui-même, le mot laïcité, bon, qui vient, comme vous le savez, de Laos, qui veut dire peuple en grec, enfin c'est un des mots qui veut dire peuple, dont démos aussi, donc vous avez laïcité, démocratie, et dans les deux cas, donc vous avez la notion de peuple qui est en jeu. La démocratie, c'est évidemment le pouvoir du peuple, donc c'est une question de philosophie politique. Qui doit exercer le pouvoir? C'est le pouvoir du peuple. C'est théoriquement le pouvoir de la totalité du peuple. Mais comme vous le savez, comme il y a rarement moyen de mettre tout le monde d'accord à l'unanimité et qu'en plus les décisions doivent se prendre dans un temps restreint, bon, ben on considère que la majorité est la meilleure approximation de l'unanimité, pour autant qu'évidemment une bonne discussion ait eu lieu. De la même manière, le mot « Laos » est utilisé dans le cadre de la notion de laïcité comme étant le peuple en son entier. Et l'idée est au fond que une partie de ce peuple ne peut pas monopoliser le pouvoir de l'État. L'État représente le peuple d'une manière ou d'une autre, et en démocratie sûrement. Et dans la mesure où l'État représente le peuple, l'État ne peut pas privilégier un engagement religieux par rapport à un autre. Ou un engagement non religieux. Que l'État privilégie la religion ou une religion particulière, ou bien qu'il privilégie l'athéisme, comme l'a fait le stalinisme, et à ce moment-là on persécute les croyants. Il y a à chaque fois une vérité officielle, c'est-à-dire l'idée que l'État prend parti pour une certaine conception de l'existence. C'est très traditionnel du temps de la domination de l'Église catholique. L'Église catholique dominait des pays comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc. Et donc, l'idée était que l'État était présent pour faire appliquer la doctrine de l'Église. C'est-à-dire qu'on avait besoin de la force de l'État pour le cas où un certain nombre d'individus n'appliqueraient pas spontanément la doctrine de l'Église et pour les ramener de force, s'il le fallait, dans le droit chemin. On disait donc que l'État était le bras séculier de l'Église. c'est-à-dire le bras, véritablement le bras de l'Église, dans le siècle. Le siècle, c'est notre monde à nous, le monde qui est dans le temps, les siècles qui s'écoulent par opposition à l'éternité. À ce moment-là, bien entendu que l'État n'était pas l'État de tout le Laos, il était l'État de ceux qui pratiquaient la religion officielle. Et donc l'idée de la laïcité, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est l'idée suivant laquelle l'État doit au minimum être neutre en ces matières-là. Neutre. Donc si l'État privilégie la religion ou une religion, ben, il crée nécessairement des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas cette religion. Mais si l'État impose un athéisme officiel, comme ça a été le cas en Union soviétique, cette fois-ci la vérité c'est l'athéisme et la religion c'est une illusion dangereuse et il faut donc extirper la religion et persécuter les croyants. Mais c'est pareil, l'État est engagé en fonction d'une certaine conception de l'existence. Donc il est neutre dans aucun des cas. Il n'est neutre que s'il ne prend pas position. Ce qui veut dire qu'à l'origine, la notion de laïcité n'est pas antireligieuse. Elle va l'être parce que le combat est contre des religions dominantes, mais d'un point de vue conceptuel, bon, la laïcité, si elle implique que l'État soit neutre, mais justement ni pro ni anti-religieux. Et de façon plus fondamentale, cela veut dire que votre position dans la société ne doit pas être affectée par votre engagement. Votre engagement, ou vous pouvez ne pas en avoir aussi, est quelque chose de personnel et il ne peut constituer ni un avantage ni un désavantage dans vos rapports avec l'État. L'État organisant la société ayant, comme on le dit, le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire, c'est la seule instance qui peut utiliser, dans certaines circonstances, la violence pour régler un certain nombre de problèmes ou faire appliquer un certain nombre de règles. Donc c'est très très important que l'État, avec le pouvoir qu'il a, qui n'est pas neutre, puisqu'il y a des majorités, des minorités, il y a des gouvernements socialistes, des gouvernements qui sont à droite, etc., etc. Mais en matière d'orientation personnelle, l'État doit être neutre. Ça, c'est le minimum. Attention, on n'a pas encore dit comment ça s'appliquait en réalité. Et vous allez voir comment ça s'est développé au XIXe siècle. Donc, cette neutralité de l'État implique que l'État n'intervienne pas pour imposer ou pour privilégier une conception particulière de l'existence, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou non. Et donc, nécessairement, c'est lié à la liberté de conscience. Enfin, on dit liberté de conscience parce que c'est plus large que liberté religieuse. Ça implique aussi la liberté de ne pas croire. La question des orientations dans l'existence est plus une question directement politique. Ce n'est pas l'État qui doit l'imposer. Il n'est pas au service d'une Église ou d'une conception du monde. Il est neutre par rapport aux conceptions du monde qui relèvent cette fois-ci de la liberté de conscience. Et qui plus est, parce qu'il ne suffit pas de donner aux gens la liberté de conscience, c'est-à-dire de ne pas les persécuter. Persécuter, ça veut dire poursuivre. C'est agressif, persécuter les gens. Ça veut dire que dès que vous voyez que des gens ne pratiquent pas la bonne religion, comme dans des régimes qui ne sont pas laïques, vous les poursuivez, vous essayez de leur imposer la religion dominante. Maintenant, même si vous ne les persécutez pas et que vous leur donnez la liberté de conscience, vous pouvez quand même les discriminer. Et la discrimination, cela veut dire une distinction arbitraire, une distinction sans justification. Nous faisons évidemment tous des justifications. Quand j'ai des étudiants dans mon auditoire, bon, vous, je ne vais pas vous faire passer d'examen. Enfin, je dois faire passer d'examen, je ne donne pas à tout le monde la même note. Ils n'ont pas droit à la même note. Ça dépend des performances, en l'occurrence. Donc, il y a des distinctions. Et quand vous embauchez quelqu'un, vous n'embauchez pas tout le monde. Vous n'avez qu'une place. Donc, il y a évidemment des distinctions que vous faites entre individus. Ces distinctions doivent avoir une justification. Si elles sont arbitraires, c'est-à-dire si elles n'ont rien à voir avec le contexte dans lequel vous prenez la décision, elles sont considérées comme des discriminations. Par exemple, vous dites j'aime pas les noirs et je veux pas engager de noirs, je donnerai moins de points aux étudiants noirs ou à ceux dont je sais qu'ils pratiquent une religion que je n'aime pas, même si ça n'apparaît pas dans leur rapport avec moi. Là, c'est véritablement de la discrimination. Pendant très très longtemps, même quand on ne persécutait pas ceux qui pratiquaient une religion qui n'était peut-être pas celle de tout le monde, ils ne pouvaient pas avoir accès aux postes militaires ou aux postes de haut grade dans le gouvernement ou dans l'administration, ce qui était réservé à d'autres. Donc pour que ce soit accompli, il faut qu'il y ait non seulement la liberté de conscience, mais aussi l'égalité, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas discriminer les gens en fonction de leur engagement et que, justement, de nouveau, leur engagement ne puisse être ni un avantage, ni un désavantage dans les rapports avec l'État. Et puis ça s'élargit, ce n'est pas seulement l'État. On légifère et ça doit être même sur le lieu du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, un entrepreneur n'a pas le droit de discriminer. Enfin, il y a des législations sur la discrimination de plus en plus qui empêchent, quand quelqu'un est parfaitement compétent, de le discriminer parce qu'on sait par ailleurs qu'il pratique telle ou telle religion, qu'on n'aime pas cette religion. Maintenant, attention. Si cette religion a des effets sur la manière dont l'individu se comporte vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de son employeur, etc., ça c'est autre chose. Ça, c'est évidemment autre chose. Quelqu'un vient pratiquer une religion et veut tout désorganiser parce qu'il considère que ses jours de congé sont différents. Je ne dis pas que c'est tout à fait illégitime, tout ça. Ses jours de congé sont différents, qu'il ne veut pas manger ceci ou cela, qu'il ne veut pas serrer la main aux femmes, etc. Évidemment que ça va, à un certain moment, bouleverser les relations de travail ou les relations avec l'administration, etc. Là, c'est différent. Votre religion compte, ça ne veut pas dire que nécessairement on ne doive pas en tenir compte, mais vous demandez quelque part que votre pratique religieuse ait une certaine signification dans la sphère du travail ou dans les rapports avec l'État. Et alors vous demandez ce qu'on appelle des accommodements, hein. C'est-à-dire vous demandez que telle ou telle règle ne s'applique pas à vous parce que vous voulez avoir congé un autre jour, ou vous êtes un Indien d'Amérique qui veut fumer du peyote, une drogue qui, dans tel ou tel état, est interdite, mais vous ne pouvez pas pratiquer votre religion parce que sans ça, vous n'avez pas le contact avec le sacré, vous demandez une dérogation, hein, etc., etc. Hein, bon. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre champ de discussion. Mais à l'origine, et ça ne se pose pas au XIXe siècle, à l'origine, l'idée, c'est simplement que quand quelqu'un a quelque engagement qu'il veut, et ça peut se savoir, il peut très bien pratiquer son culte publiquement, mais qu'il se conduit normalement comme n'importe qui dans ses rapports avec l'État, dans les rapports de travail, dans l'enseignement, etc., on ne peut pas le traiter différemment des autres, ni avantage ni désavantage. Donc vous voyez que c'est un certain corps de concept, si vous voulez, neutralité, liberté de conscience et non-discrimination. Bon, ça, c'est très général. Et évidemment, quand on... C'est très général, mais c'est très important. Parce que vous voyez bien que, même si c'est pas encore très détaillé, ça vous permet de dire que ce sont déjà des acquis. Et que par rapport à tout un ensemble de situations historiques et même parfois actuelles, ben, il y a des tas de situations dans lesquelles ces principes généraux ne sont pas appliqués. Tout simplement parce que on emprisonne les gens, on les persécute, on les discrimine parce qu'ils croient ceci ou cela ou ne croient pas ceci ou cela. Aller en Iran aujourd'hui, bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'évidemment ici, il s'agit d'un cadre très général et d'ailleurs, de ce point de vue-là, tous les grands pays de, je dirais, de démocratie constitutionnelle sont laïcs en ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire démocratie constitutionnelle ? C'est-à-dire que nous vivons en démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des élections, le peuple se prononce, il y a des majorités parlementaires, puisque nous ne vivons pas sous le règne de la démocratie directe, nous sommes trop nombreux, on ne fait plus comme ça, on élit des représentants qui eux-mêmes légifèrent. Mais évidemment, les majorités ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, si vous faites une campagne électorale en disant que vous voulez, par exemple, discriminer tous ceux qui pensent différemment, même si vous avez une majorité de gens fanatisés qui votent pour vous, vous allez avoir un juge qui va dire, écoutez, il y a une constitution. Constitution, ce sont les règles du jeu fondamentales de la vie en société, qui a une valeur supérieure. Et vous savez, dans les constitutions en général, vous avez l'organisation des pouvoirs et les droits des citoyens. Et pas simplement des citoyens, les droits des étrangers s'ils arrivent sur le territoire. Et ces droits sont des droits fondamentaux. Et vous ne pouvez pas y toucher, même si vous avez une majorité, même si vous avez un mandat populaire, la législation sera considérée comme contraire à la Constitution qui est supérieure. Et les constitutions, la plupart du temps, garantissent la liberté de conscience, la non-discrimination et donc la neutralité de l'État, si vous voulez, sans dire le mot, parce que le mot ne va pas beaucoup plus loin que les pays francophones, et encore dans les pays francophones, ça ne veut pas dire la même chose en Belgique et en France. Hein. Bon, mais enfin, sans dire le mot... C'est vrai que ça se trouve dans la plupart des constitutions de ce qu'on appelle les démocraties libérales, démocraties constitutionnelles, c'est-à-dire des démocraties basées sur le principe de la majorité, mais avec un certain nombre de freins qui sont dans la Constitution, il faut garantir les libertés. Ça se trouve aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la garante des droits de l'homme en Europe, au niveau du Conseil de l'Europe, hein, plus large que l'Union européenne, 44 pays, 45 même je crois aujourd'hui. Et là aussi, vous avez liberté de conscience, non-discrimination, etc. Et donc, vous avez au fond une exigence de respecter ce que j'appelle la laïcité au sens très, très, très général du terme. L'État est l'État de tout le Laos, donc il est neutre, il respecte la liberté de conscience, il ne discrimine pas pour des raisons d'orientation religieuse, etc., etc. Ça se trouve aussi, dans, par exemple, dans la Constitution des États-Unis. La plus vieille constitution en vigueur, puisque elle a beaucoup changé, bien sûr, mais enfin, elle date de 1787. Et juste après l'entrée en vigueur de la Constitution, donc deux ans plus tard, 1789, quand tout est mis en place, et puis un président est élu, c'est Washington le premier, eh bien, le Congrès vote des amendements à la Constitution, des modifications. Et le premier amendement garantit non seulement la liberté d'expression, mais la liberté religieuse, et dit qu'il n'y aura pas de religion établie aux États-Unis. Religion établie, c'est une référence à l'Angleterre, la religion anglicane, qui est une religion établie. Non, ça veut dire religion officielle. Et donc, si vous dites pas de religion officielle, donc neutralité de l'État, s'il n'y a pas de religion officielle, et free exercise, donc le libre exercice de la religion, ben vous avez à peu près ça. Alors ça, c'est extrêmement général. Et alors, il y a quelque chose de très important qui montre tout ce qui s'est passé, je dirais, entre cette toute fin du XVIIIe siècle, le vote des 10 premiers amendements, ce qu'on appelle le Bill of Rights à la Constitution américaine, et dont le premier, qui est très important, entre cette toute fin du XVIIIe siècle et le XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est un changement fondamental dans la notion d'église établie. Parce qu'à l'époque, quand on dit qu'il n'y aura pas d'église établie, on pense qu'il n'y aura pas d'église officielle qui privilégiera les bons croyants et qui persécutera, ou au pire, ou discriminera en tout cas, entre les citoyens en fonction de leur appartenance religieuse. Parce qu'à l'époque, religion établie, ça veut dire religion officielle, donc ça veut dire danger pour ceux qui ne font pas partie de la bonne communauté religieuse. Or, ce que vous savez, c'est qu'il existe aujourd'hui encore des églises officielles. En Angleterre, l'église anglicane et l'église établie. En Écosse, c'est l'église presbytérienne. C'est-à-dire une autre forme de protestantisme. Enfin, l'anglicanisme, ce n'est pas tout à fait du protestantisme, mais une autre forme de protestantisme qui est l'église officielle en Écosse. Au Danemark, l'église luthérienne est une église d'État. Les membres de l'Église, la hiérarchie de l'Église, font partie de l'État. En Norvège aussi. En Suède, c'était le cas jusqu'en l'an 2000. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que ça doit être difficile de ne pas être anglican en Angleterre, de ne pas être presbytérien en Écosse, de ne pas être luthérien au Danemark ou en Norvège. Mais non, bien sûr. Ces notions d'église établie sont restées, mais elles sont restées uniquement parce que leur contenu inégalitaire ou répressif a disparu. C'est un peu, si vous voulez, comme la monarchie. Vous savez très bien qu'en Belgique ou ailleurs, dès que le roi ou un membre de la famille royale semble adopter une position politique qui va dans un sens ou dans un autre, c'est une crise de la monarchie, parce que la monarchie existe encore pour peu que le roi n'intervienne pas dans l'activité politique, puisque, évidemment, la légitimité, c'est celle de la démocratie et du vote, et que le roi règne mais ne gouverne pas. Et donc, quand Baudouin refuse de signer la loi sur l'avortement, ça pose un problème. Bon. Et ça ébranle la monarchie. Je dirais que c'est la même chose pour la religion établie. Si la religion établie signifiait encore en Angleterre, au Danemark, etc., un privilège pour les croyants de la bonne religion, elle n'existerait plus, c'est plus possible. D'abord parce que les idées ont évolué, puis vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les discriminations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, attention, financièrement, il y a sûrement un certain nombre de privilèges. Vous avez encore les évêques anglicans à la Chambre des Lords, etc. Vous ne pouvez pas être roi d'Angleterre si vous n'êtes pas anglican. Bon, mais à part ça, il n'y a aucun privilège. Et les droits sont les mêmes pour tous. Et vous avez dans l'histoire de l'Angleterre des gens qui sont arrivés au sommet du gouvernement, qui étaient catholiques ou qui étaient juifs. même si pendant tout un temps c'était plutôt des juifs convertis, mais donc avec l'évolution, la notion de religion établie ne signifie plus la même chose. Quand il parlait à la fin du XVIIIe siècle, pas de religion établie, ça voulait dire quelque chose. Pas de religion officielle qui persécute ou qui discrimine ceux qui ne sont pas de la bonne communauté. Aujourd'hui, il y a un débat perpétuel. Il y a tout le temps des débats en Angleterre sur le fait de savoir est-ce qu'il faut désétablir l'Église d'Angleterre. Et puis bon, c'est le genre de débat. Bon, comme aujourd'hui en Belgique, vous savez, les débats sur le protocole. Parce que maintenant, le primat de Belgique, hein, qui est Monseigneur Léonard, aujourd'hui c'était Monseigneur Danet, le savant. Bon, ben, il est dans l'ordre protocolaire très très haut placé dans toutes les grandes cérémonies de l'État. Bon, maintenant, on va le faire redescendre et il va passer derrière les membres de la Cour de cassation, etc., etc., etc. C'est très bien, c'est pas ça. Mais bon, vous vous battez pas sur des choses comme ça. D'abord, personne ne le sait. Ou le Tédéum organisé le jour de la fête nationale, etc. Est-ce qu'on peut organiser une fête religieuse et des choses comme ça? Bon, effectivement, les gens qui défendent une laïcité très stricte disent « ça ne va pas ». Enfin, ça ne mange pas beaucoup de pain, il faut bien dire. Hein. Bon, et ça ne, quand on pense ce que signifie la religion officielle, ce qu'elle a signifié en termes de discrimination, de persécution, de brutalité, ce que ça signifie encore pour la situation des minorités chrétiennes dans les pays musulmans aujourd'hui. Je ne parle pas des juifs, c'est encore pire depuis qu'existe le conflit israélo-palestinien. Hein. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Hein. Mais enfin, c'est bien cette idée-là, l'idée, pas de religion officielle, pas de religion établie, neutralité de l'État, libre exercice, c'est-à-dire liberté de conscience et non-discrimination. Maintenant, comment est-ce que tout ça se met en place au XIXe siècle? Alors, vous devez savoir d'abord que ce sont des principes généraux, ces principes de neutralité, etc. La question, oui, mais comment est-ce qu'on les met en pratique institutionnellement, politiquement, juridiquement, pour organiser les choses? Et là, vous avez globalement deux solutions différentes qui se sont progressivement mises en place au cours du XIXe siècle et puis au XXe siècle. La première, c'est la séparation. La séparation, ça veut dire, ben, pour que l'État soit neutre, l'État est séparé, l'État ne s'occupe pas des affaires d'engagement religieux. Théoriquement, il n'a rien à faire. Bien sûr, il faut respecter l'ordre social, il ne faut pas violer les lois, mais ça c'est valable pour tout le monde, pour toutes les associations. Donc idéalement, l'État ne considère la religion et les associations religieuses comme des groupes privés. Et il n'est pas impliqué là-dedans. Il ne paye pas les ministres du culte, les prêtres, les pasteurs, les rabbins, etc., il ne les paye pas. Il n'organise pas d'enseignement de la religion à l'école publique. Et en théorie, si le système de séparation est un système cohérent, il ne subventionne pas non plus l'enseignement confessionnel. Bon, parce que si un enseignement confessionnel, c'est l'idée de dire, bon, ben, si c'est un enseignement confessionnel, la liberté d'enseignement étant garantie, ben, ça doit être subventionné par les gens d'une certaine communauté et pas par toute la population. Ça, c'est l'idée générale. La France, au XIXe siècle, n'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Elle ne deviendra un régime de séparation qu'avec la loi de 1905. Alors, si on prend les théories d'historiens comme Hobsbawm, etc., qui parlent du long XIXe siècle qui dure jusqu'à la guerre 14-18 et puis du court XXe siècle qui va de 1918 à 1989, la chute du communisme, alors, on ne respecte pas strictement 1900, 2000, etc. Bon, quelque part, la loi de 1905, c'est un peu l'accomplissement des combats du XIXe siècle. Mais bon, c'est déjà au XXe siècle. Au XIXe siècle, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, après, au XXe siècle aussi, étant donné les luttes et les compromis, on fait un compromis. Et en France, on décide en 1959, la loi de Bré, de subventionner les écoles privées, dont la majorité sont des écoles catholiques. Sous contrat, donc elles doivent respecter les programmes, etc., théoriquement accueillir tout le monde. Enfin bon, on les paye. La Belgique aussi, ça vous le savez, mais la Belgique est un système différent. Alors, au XIXe siècle, en France, comment ça se passe? Mais d'abord, il faut bien savoir que en France, la Révolution française a joué un rôle fondamental. Elle a joué un rôle fondamental parce que, et c'est très important, la Révolution française a eu, surtout durant ces périodes les plus dures, un caractère très anti-catholique. pourquoi est-ce qu'elle a eu un caractère extrêmement très anticatholique? Pour ça, il faut se référer à l'historien politologue qui a le mieux compris l'histoire, à mon avis, l'histoire de France et l'histoire des États-Unis, c'est Tocqueville. Et Tocqueville, dans les années 1830, a fait un voyage aux États-Unis. Il voulait visiter le système carcéral. Et puis, bon, il a fait toute une analyse sur la démocratie en Amérique, et donc il a publié cet ouvrage de la démocratie en Amérique. Et par ailleurs, Tocqueville a aussi écrit plus tard un ouvrage qu'il n'a pas terminé, qui s'appelle « L'Ancien Régime et la Révolution ». C'est-à-dire que là, c'est une analyse de la France, et pas des États-Unis. Et ce qui le frappait, il était aux États-Unis dans les années 1830, c'est les années, ce qu'on appelle jacksonienne, du président Jackson, qui est un président assez populiste. Et il disait, c'est extraordinaire comme aux États-Unis, les institutions semblent stables, bon, on était quand même à une trentaine d'années de la guerre de sécession, mais enfin c'était beaucoup plus tard, comme les institutions semblent stables. Et surtout, comme la religion est florissante, disait-il. Alors que chez nous, en France, la religion fait tout le temps l'objet de combats politiques. Il y a une grande instabilité, il y a la religion, et puis il y a la terreur, puis il y a le directoire, et puis il y a Napoléon, et puis il y a la Restauration, et puis Louis-Philippe, et puis la Deuxième République en 1848, et puis le Second Empire avec Napoléon. Et chaque fois, c'est on remet la religion catholique en avant, on recule un peu, etc. On permet le divorce, on interdit le divorce, vous voyez. Parce que c'est l'Église qui veut ça. Et donc Tocqueville se dit, oui, mais enfin bon, qu'est-ce qui fait qu'en France, au fond, la religion ait tellement mauvaise réputation, dans une partie de la population, elle fasse l'objet d'un tel combat politique? Et dit-il, c'est tout simplement parce que, aux États-Unis, dit-il, les Églises n'ont jamais été parties au pouvoir. Aucune d'entre elles n'a essayé de monopoliser le pouvoir. Tandis qu'en France, quand les révolutionnaires se sont attaqués à l'ancien régime, donc pour des raisons politiques, à la monarchie, l'aristocratie, les privilèges, ben, évidemment ils se sont attaqués à l'Église, parce que l'Église était entièrement intégrée dans l'appareil d'État d'ancien régime. Et celui qui attaquait l'ancien régime attaquait l'Église aussi. Donc la furie contre l'Église, la confiscation des biens d'Église, pendant la Révolution française, on appelle la constitution civile du clergé, qui était extrêmement dure vis-à-vis de l'Église, tout ça, dit Tocqueville, c'est lié au fait que l'Église se mêlait de politique, que c'était une Église officielle, donc soutenue par le pouvoir politique. Et quand le pouvoir politique est attaqué, bien entendu, cette Église-là est dénoncée. Il dit tandis que aux États-Unis, ça ne s'est jamais passé. Alors évidemment, il faut nuancer. Sociologiquement, les protestants ont été dominants aux États-Unis pendant longtemps. C'est ce qu'on appelait les WASPs. On appelle toujours les WASPs, White Anglo-Saxon Protestants. Évidemment, et les hommes en plus, parce que le combat pour l'égalité des femmes a pris du temps, et évidemment les blancs, parce que le combat pour l'émancipation des noirs et les luttes contre la ségrégation a pris du temps aussi. Mais ça, c'est dans la société. Et l'État, théoriquement, était neutre vis-à-vis des engagements religieux. Bien sûr, au début, c'était favorable aux protestants, puis les catholiques se sont intégrés avec beaucoup de difficultés. Les Irlandais ont été très fortement rejetés. Les juifs, et puis au XXe siècle, évidemment, c'est devenu très multiple, et même les agnostiques et les athées, même si c'est relativement mal vu aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile qu'ici, donc peut être agnostique ou athée, et de plus en plus, d'ailleurs, ils revendiquent, mais pour devenir président des États-Unis, vous, même si vous l'êtes, vous avez intérêt à ne pas le dire, parce que vous allez perdre beaucoup de voix. Donc il y a une idée que quand même il faut avoir une religion, quelle qu'elle soit, et elle peut être une religion, ce qu'on appelle sociologique, c'est-à-dire une religion de relations humaines, comme ça, la communauté à laquelle on appartient. Et le président des États-Unis, ça c'est aussi, c'est quand même étonnant, dans la Constitution de 1787, il est indiqué que le président des États-Unis, quand il prête serment, c'est pas quelque chose de très important, mais c'est tellement visible le jour de son entrée en fonction, inauguration, comme on dit. Le jour de son entrée en fonction, le président, vous l'avez vu, il prête serment sur la Bible. Obama, d'ailleurs, a amené des Bibles de qualité, pour des raisons politiques et pas religieuses. Il a amené la Bible de Lincoln, celle de Martin Luther King, etc. Enfin bon, quand même, il l'a fait sur la Bible. Bon. C'est pas obligatoire. La constitution de 1787, et à l'époque c'était novateur comme tout, vous imaginez, fin du XVIIIe siècle, cette constitution dit que le président, quand il entre en fonction, et ça vaut d'ailleurs pour le président du Sénat, etc., mais enfin c'est le président des États-Unis, c'est la fonction la plus visible, que le président jure ou affirme, swear ou affirm. Jurer, ça, c'est en invoquant Dieu. Et affirmer, ça veut dire s'il ne veut pas invoquer Dieu. Il affirme sa fidélité à la Constitution, qui après tout est un texte humain. La Constitution des États-Unis commence par « We the people of America » et pas une invocation à Dieu. Vous savez qu'il y a des constitutions actuelles, celle d'Irlande, la Grèce, même le Canada, qui ont une référence à Dieu. Un Dieu assez général, hein, bon, évidemment, mais qui ont une référence à Dieu. Pas dans la Constitution des États-Unis. Et d'ailleurs, tous les fondamentalistes chrétiens, quand quelque chose n'allait pas aux États-Unis, ont dit c'est à cause de la Godless Constitution. C'est parce que vous avez une Constitution sans Dieu. C'est parce que vous avez permis aussi au président, s'il le veut, de ne pas jurer sur la Bible. Donc, alors, cette possibilité offerte par les pères fondateurs, qui étaient beaucoup plus laïcs, au sens large du terme, que beaucoup de leurs successeurs, dont Jefferson. Il n'était pas un directeur de la Constitution parce qu'il était ambassadeur en France à ce moment-là, mais il correspondait avec son meilleur ami Madison. Et Jefferson disait, moi, que quelqu'un croit en zéro Dieu, un Dieu, dix dieux, ça m'est complètement égal. It doesn't break my arm. My arm, il disait, ça ne brise pas mon bras. J'ai dit harm parce que c'est le harm principle qui consiste à dire que tant que quelque chose ne fait pas du tort à autrui, il faut le laisser à la liberté. Et donc Jefferson dit, moi, il croit, hein, Dieu dit Dieu. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui m'importe, c'est qu'ils aient des vertus publiques, qu'ils dirigent bien le pays, qu'ils aient de l'initiative, qu'ils soient honnêtes, qu'ils aient des vertus publiques. Bon, ça, c'était Jefferson, qui a été traité d'athée parce qu'il était pro-français, etc. Et qui avait d'ailleurs fait, on a vu ça vers 1800, il est mort en 1836, et après sa mort, il avait gardé une Bible découpée, mais découpée au sens littéral du terme. Il admirait beaucoup le personnage de Jésus, mais il avait enlevé toutes les histoires qui lui semblaient des superstitions, etc. Et il en faisait une morale qu'il trouvait très bien. Bon, il n'a pas publié son vivant parce qu'il s'est dit, j'ai déjà été assez attaqué, je ne vais pas en rajouter. Donc vous voyez, le président peut affirmer sa fidélité à la Constitution, mais en fait, aucun président ne l'a fait sauf un. Tous les présidents, d'abord, ont été protestants, sauf Kennedy qui était catholique. Ils ont tous juré sur la Bible. Certains étaient très croyants. Je pense que Obama est sûrement plus croyant que ne l'était Kennedy ou Roosevelt, par exemple. Mais bon, ça ne se fait pas de ne pas le faire. Ils ont toujours juré sur la Bible, sauf un président, Franklin Pierce, un peu avant la guerre de sécession, dans les années 1853-1857, qui, lui, a affirmé sa fidélité à la Constitution en utilisant un texte de droit. C'est pas parce que c'était un libre penseur, au contraire. C'est parce que entre son élection et son entrée en fonction, vous savez, il y a du temps, il y en avait encore plus à l'époque parce que les communications étaient lentes, il y a eu un accident terrible. L'un de ses enfants s'est fait écraser par un train. Et sa femme, qui était assez bigote, a dit, c'est Dieu qui te punit de devenir le président d'un pays qui a adopté une constitution qui refuse Dieu, qui ne s'est pas mis sous la protection de Dieu. Et, bon, évidemment, il ne voulait pas, il a quand même devenu président des États-Unis. Une fois qu'on est élu, quand même, ça ne se refuse pas. Mais pour ne pas blasphémer, il n'a pas mêlé Dieu à cette histoire-là. Et donc, il a prêté serment sur un texte juridique. Donc, le seul exemple est un exemple qui est encore plus superstitieux que ce qu'on peut imaginer. Ça n'a rien à voir avec la libre pensée. Hein. Toujours est-il que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et donc, c'est quand même important de voir dans ces constitutions tous ces éléments qui étaient quand même des éléments déjà très laïques et qui font qu'aujourd'hui, l'image qu'on a, le président qui prête serment sur la Bible, « In God we trust » sur les billets de banque, le serment d'allégeance que récitent les élèves tous les matins à l'école, « A nation under God », etc. Beaucoup de ces choses-là ont été introduites après. Beaucoup de ces choses-là, par exemple, le « In God we trust » sur les billets de banque, c'est Eisenhower pour montrer la différence entre les États-Unis et le communisme athée dans la lutte contre le communisme, etc., etc. Donc, oui, ce sont des choses qui existent comme ça et qui font que, au fond, aux États-Unis, vous avez eu un système de séparation assez fort d'entrée de jeu. En France, vous l'avez vu, il faut attendre 1905 pour avoir une loi de séparation. Et donc, cette séparation est une séparation qui, au fond, aux États-Unis, on n'a jamais pu subventionner les cultes, les églises. C'est ça qui nous donne une impression bizarre. C'est-à-dire qu'on invoque Dieu au sommet de l'État et la population est plus religieuse, alors on se dit, ils sont moins laïcs que nous. Mais au sens où je vous l'ai défini, c'est pas évident. Parce que le président invoque Dieu, encore une fois, ça ne mange pas beaucoup de pain. Ça peut être choquant pour des gens qui sont de bons citoyens et qui n'aiment pas que le président invoque une entité qui ne signifie rien pour eux ou rien que du mal pour eux. Mais c'est symbolique. Et là, vous voyez, dans la laïcité, c'est une évolution importante. C'est que, d'abord, à la fin du XVIIIe siècle, ça signifiait la lutte contre ce qui existait, c'est-à-dire une église établie au sens d'une église oppressive, contrainte en matière de religion. Après, vous avez eu tous des combats, il n'y avait plus de contraintes. Durant tout le XIXe siècle, vous avez eu de moins en moins de contraintes en matière religieuse, et ça n'avait plus beaucoup de sens dans les pays européens. Mais alors se sont posés le problème de la place de la religion dans la société. Quand on légiférait, ou les subventions, et des questions d'argent, et des questions de reconnaissance, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, en 1905, on a décidé de séparer. Et puis vous avez, encore plus subtil, et qui peut paraître moins important, mais qui compte, c'est la question psychologique. Vous pouvez très bien dire, j'utilise les billets de banque aux États-Unis et franchement, je m'en fiche qui est marqué In God We Trust, etc. Ou en tout cas, ça peut vous choquer. Et si vous ne croyez pas en Dieu, le billet ne vaut pas moins. Ça ne change pas, si vous voulez. Nous avons aussi ces affaires en Europe. Il y a eu une affaire récente de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'on appelait l'affaire Lao Tsi, c'est le crucifix dans les écoles en Italie. Bon, théoriquement, c'est un symbole passif, a dit la Cour. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y avait un endoctrinement religieux ou qu'on privilégiait les élèves catholiques par rapport aux autres, ça, évidemment, c'est totalement contraire à toutes les lois, à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais bon, il est là, le crucifix, on dit c'est historique et ça n'a pas de lien avec l'enseignement. La Cour européenne des droits de l'homme a d'abord dit que c'était une violation de la laïcité, hein, parce que c'était une sorte de discrimination, c'est-à-dire qu'on obligeait des élèves qui étaient dans la classe de tous, de tout le Laos, hein, avoir officiellement sur le mur le symbole d'un engagement particulier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a donc dit que c'était contraire à la Convention, donc à la laïcité, hein, à la non-discrimination. Ça a fait un bruit énorme en Europe, énorme. Et ce bruit a fait en sorte, et tout ce lobbyisme, que quand l'affaire a été réexaminée, ce qu'on appelle en grande chambre, qui est une sorte d'appel, hein, la Cour a pris une décision totalement en sens contraire. À l'américaine, on dit la Cour suprême des États-Unis dit la même chose en disant, écoutez, tant que ça ne se traduit pas par la préférence accordée à telle ou telle religion, ou à telle ou telle église, ou en termes d'argent, ou en termes... C'est symbolique, c'est psychologique, et bon. Mais il faut vraiment que ce soit bénin, parce que sinon, ça devient trop important. On peut pas être entouré de symboles d'une religion particulière. Là, c'était l'idée que ça a toujours été comme ça, qu'on l'a pas introduit délibérément, etc. Et pour finir, ça passe. Donc, les crucifix sont sauvés en Italie, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Bon, c'est quelque chose comme ça. Bon. Maintenant, ce système de séparation n'est pas le seul. Vous pouvez aussi avoir un système. Quel est l'autre système que vous pouvez avoir sans, en respectant la laïcité, c'est-à-dire sans privilégier une religion? C'est un système d'égal traitement. Alors là, vous pouvez payer les prêtres, mais vous devez tous les payer. Vous pouvez organiser des cours de religion à l'école publique, mais il faut des cours de religion pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde, il faut quand même être assez nombreux, etc. Il faut des cours de religion qui ne privilégient pas une religion. Hein. Donc, quelque part, si vous subventionnez les écoles confessionnelles, ben, il faut subventionner les écoles confessionnelles des différentes religions. Ça, c'est un système dans lequel l'État n'est pas séparé, puisqu'il intervient, mais il doit intervenir de façon équitable. Donc, traitement égal, ça s'appelle traitement égal. Beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. C'est ce qui se passe dans la toute grande majorité des pays. Alors, au XIXe siècle, c'est ce qui se passait en France. Que le modèle belge, qui est un modèle de culte reconnu, donc d'égal traitement, vous allez voir, le modèle belge qui s'est mis en place à partir de la révolution de 1830, ce modèle belge est un modèle qui est à mains égards calqué sur le modèle français. Et le modèle français, c'est le modèle napoléonien. C'est-à-dire que Napoléon, au début du XIXe siècle, a fait un concordat avec le pape, c'est que le pape avait été horrifié par tout ce qui s'était passé durant la Révolution française. Ça va recommencer avec la loi de 1905, un siècle plus tard, hein, mais il avait été horrifié par tout ce qui s'était passé pendant la Révolution française. Et Napoléon, par stratégie, parce qu'il a voulu se faire couronner par le pape, parce qu'il considérait que la religion était tout à fait essentielle à l'État, parce qu'il disait « sans religion, les pauvres et les laissés pour compte n'accepteront jamais leur sort ». Il avait bien raison. Enfin, il avait bien raison. D'un point de vue de politique réaliste. Et donc, Napoléon utilise un peu comme l'aurait fait Machiavel, si vous voulez, la religion, au sens où c'est un instrument de l'État. Quand la religion est bonne pour l'État, on l'utilise. Maintenant, si les religieux se mettent à critiquer l'État ou le gouvernement, ça devient différent. Mais c'est justement pour ça que le système napoléonien est un système dans lequel la religion est intégrée à l'appareil d'État. Alors ça a des avantages pour la religion puisque l'État paye les ministres du culte. Il y a un enseignement de la religion qui est organisé à l'école, donc tout ça dans le courant du XIXe siècle, qu'on laisse d'ailleurs les membres des congrégations religieuses enseigner dans l'école publique, à l'école primaire, etc., parce qu'il n'y a pas assez d'instituteurs, etc., tout ça jusque dans les années 1870-80. Là, ça va changer, évidemment. Hein. Alors, donc, la religion bénéficie de ce traitement privilégié. En même temps, elle perd. Elle perd en autonomie, parce qu'elle est contrôlée. Elle est intégrée dans l'appareil de l'État. Et donc, vous avez toujours eu des catholiques qui ont refusé ça en disant « Moi, je ne veux pas de l'argent de l'État, parce que si j'ai de l'argent de l'État, l'État va me surveiller, me contrôler, et je perdrai mon autonomie. » C'est une vieille idée américaine, de nouveau, qui existe depuis avant la révolution des États-Unis de la fin du XVIIIe siècle, et qui est l'idée qu'il vaut mieux que les groupes religieux soient indépendants de l'État, qui ne demandent pas de l'aide à l'État. Non pas nécessairement avec l'idée qu'il va nous contrôler, mais parce qu'il y avait cette vieille idée, qui est une idée qui a été défendue par le fameux Roger Williams, qui a fondé Rhode Island au XVIIe siècle, vous savez. Donc, il n'acceptait pas le puritanisme au Massachusetts. Donc, les puritains qui avaient fui l'Angleterre avaient établi un régime extrêmement dur, répressif, de religion officielle, alors officielle. Et lui a quitté Boston pour aller fonder Providence, Rhode Island, et il a créé le premier État dans lequel il y avait la liberté religieuse. Mais c'était un religieux. Mais il considérait que l'État, c'est le mal. L'État, c'est la cité terrestre. La religion doit représenter la cité de Dieu. Et donc, on ne peut pas mêler les deux. Et donc que l'État introduise de la contrainte en matière religieuse, il disait, ça crée des hypocrites. Ça donne beaucoup trop de pouvoir à l'État. Il faut que chacun, en conscience, puisse reconnaître la vérité religieuse, etc., etc. Ça, c'est très américain. C'est-à-dire cette idée que, au fond, il vaut mieux que les églises ne demandent pas d'argent à l'État. Et c'est pour ça que Tocqueville dit que les églises prospéraient. Parce que comme les églises n'étaient pas liées à l'État, tous les aléas qui arrivaient aux différents gouvernements, etc., quelque part, les églises étaient dans une position qui était une position extérieure, ce qu'on appelle tribunicienne, hein, comme les tribuns à Rome, qui représentaient le peuple, mais qui n'exerçaient pas le pouvoir. Et donc, effectivement, il y a eu ce cas pendant... c'est très fréquent aux États-Unis. Les catholiques demandent des subventions qu'ils n'obtiennent pas d'ailleurs de l'État, mais beaucoup, la plupart, les baptistes, hein, toutes ces grandes églises ne demandent pas d'argent à l'État, ne veulent pas être subventionnés, sont très contents du système de séparation. Alors que chez nous, la séparation est en général demandée par les non-croyants ou par ceux qui luttent contre l'Église officielle. Mais il y avait, au XIXe siècle, quelques catholiques qui disaient « ne prenons pas l'argent de l'État parce que l'État veut nous contrôler ». Ils étaient très minoritaires et en général, ça s'est constitué donc en système, ce qu'on appelle le système des cultes reconnus. Parce que, et ça a été évidemment le problème au XIXe siècle, c'est que ce système des cultes reconnus, Donc, on a commencé par dire, il y a quand même pas que les catholiques, même si on disait que le catholicisme était la religion de la majorité des Français. Il n'y a pas que les catholiques. La Révolution avait quand même d'abord émancipé les protestants, et puis les juifs. Et donc, il fallait les faire entrer dans le système. Alors, Napoléon fait un concordat avec le pape, mais le concordat, ça ne vaut que pour les catholiques, parce que le pape, c'est pour les catholiques. Donc, on a ajouté à ce concordat ce qu'on appelait des articles organiques, et là, on a permis aux protestants et aux juifs d'exercer leur culte, mais de nouveau dans un système de contrôle où c'est l'État qui nommait les ministres du culte. Et donc, la religion était reconnue officiellement, mais en même temps contrôlée. Et ça a continué pendant tout le XIXe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que la France a eu effectivement en 1905 sa loi de séparation qui a tout changé, mais pas partout. Tout simplement parce qu'en 1905, l'Alsace et la Moselle ne faisaient pas partie de la France. Ils ont été conquis par l'Allemagne en 1870, qui ne les a rendus qu'en 1918. Elle les a repris brièvement entre 40 et 45. Et donc, en 1905, évidemment que la loi ne s'est pas appliquée à l'Alsace et la Moselle qui n'étaient pas sous souveraineté française. Et après 1918, il a été question d'appliquer le régime de la séparation en Alsace et en Moselle. Et pour finir, ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, si vous êtes en Alsace et en Moselle, vous avez effectivement un enseignement officiel du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, pas encore de l'islam. Et vous avez un peu un système de cultes reconnus, et donc des cultes reconnus qui donnent un certain nombre de droits. On paye les ministres du culte, on enseigne ces religions à l'école officielle, il y a des facultés de théologie officielles à Strasbourg, il y a une grande faculté de théologie catholique, et bien sûr, ça fait en sorte que vous avez un système très différent du système français de séparation. Puisqu'en 1905, système de séparation veut dire que l'État ne subventionne pas les cultes, on n'enseigne pas la religion à l'école publique. Et certes, il y a eu un compromis sur la subvention des écoles confessionnelles pour peu qu'elles soient sous contrat, qu'elles accueillent les élèves, etc., qui est un peu une entorse. Mais le système d'Alsace-Moselle est un système qui a beaucoup de traits communs avec le système belge. Parce que si on en vient au système belge, le système belge, c'est 1830 et la constitution de 1831, et l'idée du système belge, vous savez que à l'origine de la Belgique, c'est ce qu'on appelle l'unionisme entre les libéraux et les catholiques, et donc on fait des compromis, on accorde la liberté d'enseignement que demandent les catholiques, et on demande aussi les grandes libertés, liberté d'expression et des choses comme ça. Et donc, effectivement, durant le XIXe siècle, on met en place un système de culte reconnu. Alors, pourquoi reconnu? Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas accorder ces droits à n'importe quel groupe. C'est embêtant, parce que c'est difficile de traiter tout le monde de façon égale. C'est pour ça que la séparation, c'est plus facile. L'État ne s'en occupe pas, il ne s'en occupe pas. C'est des affaires privées. Il fait respecter la loi en général. Tandis que, évidemment, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, un groupe de trois personnes, de dire, écoutez, nous sommes trois, voici le deuxième est notre prêtre, on veut être payé, on veut qu'on enseigne notre religion à l'école publique, dans toutes les écoles où on le demandera, pas beaucoup, mais enfin, même s'il y en a une, on veut que vous nommiez un professeur, vous le payez. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, donc il faut un certain nombre de critères. Mais ces critères ne peuvent pas être religieux, parce que s'ils sont religieux, l'État devient théologien et distingue entre la vraie religion et pas la vraie religion. C'est très difficile. Vous savez qu'il y a une provocation à l'heure actuelle, justement, pour essayer de subvertir ce système du XIXe siècle, qui est le système des cultes reconnus, dans lequel nous sommes encore, et dans lequel la France n'est plus, sauf, pour les raisons que j'ai données, l'Alsace et la Moselle. C'est la fameuse théorie du Flying Spaghetti Monster. Donc la théorie du monstre spaghetti volant, quelque part, très loin, où on ne peut pas l'observer. Mais moi, je crois qu'il y a un Flying Spaghetti Monster. C'est ma religion, je voudrais l'enseigner. Alors évidemment, vous savez les critères qui sont utilisés pour la reconnaissance des cultes, qui sont des critères de l'exécutif par décret, qui sont de tradition. C'est il faut un certain nombre de pratiquants. Donc l'idée consiste à dire il faut quand même que vous ayez convaincu un certain nombre de personnes pour qu'on mette la machine en branle. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut un certain nombre de personnes. Il faut qu'ils soient là depuis un certain temps. Donc, il y a une certaine stabilité du groupe. Et il faut que les représentants du groupe, mais qui sont les représentants du groupe, respectent les grandes valeurs démocratiques et constitutionnelles. Parce que dans un système de culte reconnu, c'était le cas en Belgique depuis le début, c'est vous avez besoin d'interlocuteurs. Si vous n'avez pas de culte reconnu, vous n'avez pas besoin d'interlocuteurs. Ils s'arrangent entre eux. Et que l'un dise « je suis le vrai représentant de telle ou telle religion », ça n'a pas d'importance. Attention, ça arrive souvent. C'est arrivé avec l'Église orthodoxe, après la Révolution soviétique, où il y avait des éléments fonciers très importants, des propriétés de l'Église orthodoxe. En France, ça s'est passé. Et aux États-Unis. Les orthodoxes qui avaient fui le communisme revendiquaient la propriété de ces immeubles, et puis arrivaient les orthodoxes du régime, ceux qui étaient restés et qui étaient fidèles au régime. Est-ce que l'État allait entrer dans une querelle en essayant, les uns disaient qu'ils étaient des vrais orthodoxes, ou quand il y avait décisions, vous comprenez, pour des questions vraiment théologiques. C'est pas à l'État de dire, vous êtes les vrais orthodoxes et c'est à vous les bâtiments, ou vous avez droit à être reconnus et vous pas, c'est très très difficile. Et donc, l'État essaye toujours de rester en dehors de ça et d'utiliser des critères qui sont des critères séculiers. Le nombre, la stabilité, la reconnaissance des grandes valeurs démocratiques, etc. Alors, pour les catholiques, vous avez un interlocuteur, bien sûr, puisque vous avez les évêques et vous avez un système hiérarchique d'autorité. Bon, ce n'est pas des interlocuteurs très démocratiques, mais c'est des interlocuteurs. Pour les protestants, traditionnellement, les protestants se sont organisés, sont d'ailleurs très 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 proches des agnostiques et des athées, des francs-maçons, etc. Mais ils doivent s'organiser dans une seule structure protestante et arrivent aujourd'hui des évangéliques d'Afrique et d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec la conception très tolérante et très ouverte des protestants européens actuels, mais qui sont souvent des fondamentalistes. Et c'est, ça pose problème parce que de nouveau, qui est l'interlocuteur ? On a ça évidemment chez les juifs, entre les juifs laïcs de Bruxelles et les juifs orthodoxes d'Anvers, etc., bien entendu. Et pour le musulman, c'est encore plus difficile parce que pour les musulmans, il y a en plus un problème d'ordre public. Donc, pour essayer de mettre en place des structures, parce qu'évidemment, les musulmans sont suffisamment nombreux et là depuis suffisamment longtemps, et il y en a un certain nombre d'entre eux qui respectent les valeurs démocratiques, etc., pour qu'on puisse mettre la chose en branle. En même temps, ça a été difficile parce qu'on a fait un conseil musulman, on a fait des élections, ce conseil, une sorte de parlement, et puis ce conseil a proposé un exécutif, et ça s'est passé, la première élection a eu lieu il y a presque 10 ans, et la sûreté de l'État en a retoqué un bon tiers. Parce qu'ils disaient, ils sont dangereux, suivant nos dossiers, ce sont des gens qui sont liés à des groupes violents et des choses comme ça. Donc pour que ces religions soient intégrées véritablement et qu'on ait des interlocuteurs à la fois représentatifs et qui respectent les grandes valeurs démocratiques, ça n'est pas facile le système de culte reconnu. Ça marche quand vous traitez avec des groupes qui sont là depuis longtemps et dont la majorité en tout cas est acquise aux valeurs démocratiques. Vous avez toujours une petite minorité d'intégristes, bien sûr, d'intégristes chez les catholiques, de fondamentalistes chez les protestants, d'ultra-orthodoxes chez les, bien sûr, d'islamistes aussi. Mais comme l'islam a une autre histoire, et que les communautés musulmanes sont des communautés qui sont vulnérables, et qu'elles sont travaillées par un islamisme international, c'est beaucoup plus difficile. Ça n'a rien de contre l'islam ou pour... La situation en tant que telle est une situation beaucoup plus difficile. Et là, le système des cultes reconnus montre sa difficulté. Hein. Parce que, alors, si on met ça de côté, dès le 19e siècle, si vous croyez autre chose, si vous n'êtes pas un groupe reconnu, parce que vous êtes, par exemple, au 19e siècle, les bouddhistes. Aujourd'hui, ça change, parce qu'aujourd'hui, les bouddhistes sont assez nombreux et ils vont entrer dans le système de culte reconnu. Ils sont assez nombreux, ils sont assez stables, ils reconnaissent les valeurs démocratiques et il n'y a pas de problème. On parle même des hindouistes aujourd'hui. Mais bon, il y a 50 ans, si vous étiez bouddhiste, vous aviez parfaitement le droit d'être bouddhiste, ou il y a 20 ans, parfaitement, comme tout le monde. Donc les principes laïcité, liberté de conscience, non-discrimination, personne ne pouvait vous discriminer parce que vous étiez bouddhiste. L'État était neutre vis-à-vis de ça. Mais vous ne pouviez pas faire... Vous pouviez ouvrir des écoles aussi si vous les payez vous-même. Mais vous ne pouviez pas demander à ce qu'on subventionne votre enseignement, vous ne pouviez pas demander à ce qu'on enseigne votre religion à l'école publique, et vous ne pouviez pas demander à ce qu'on paye vos prêtres, enfin, pour peu qu'il y ait des prêtres dans le bouddhiste, enfin, des clercs bouddhistes, quelque chose comme ça. Donc tout le monde a la liberté de conscience, le droit à la non-discrimination, mais les cultes reconnus, les membres des cultes reconnus ont quelque chose en plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous essayez de faire la logique de l'égal traitement, ben vous devez quand même avoir une certaine masse critique des critères. Mais vous voyez bien que le critère du nombre, de la durée, de la stabilité et de la reconnaissance des valeurs démocratiques, théoriquement, n'est pas religieux. En même temps, si vous pratiquez une religion où vous avez une certaine conception de cette religion, où votre loi de Dieu va à l'encontre de la loi des hommes et des valeurs démocratiques, là, ça pose un problème. Et donc, évidemment, nécessairement, le système de culte reconnu, théoriquement, favorise les religions ou les religieux libéraux ou ouverts ou qui acceptent les valeurs laïques. Est-ce que ça marche? Eh bien, vous savez que l'ancien président Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, préférait le système, donc il avait la nostalgie du système napoléonien du 19e siècle, enfin, il ne le disait pas tout à fait comme ça, mais il préférait ce système-là, dit-il, parce que moi, quand je dois gérer pour des raisons d'ordre le nouveau culte musulman et les mosquées et tout, je préfère que ce soit l'État qui contrôle plutôt que l'argent vienne de je ne sais pas où et qu'on n'ait aucun contrôle dans un système de séparation. Le système de séparation est très très bon quand la société civile est capable de s'auto-organiser. Il est très mauvais quand la société civile est traversée par des courants qui sont des courants radicaux, et où là, l'État est entravé dans le contrôle qu'il peut exercer. Alors, il a besoin de la sûreté de l'État qui, de temps en temps, vient de l'extérieur, ne connaissant pas le problème. C'est pas un problème de laïcité, disant simplement pas de fonction officielle pour tel ou tel individu, parce que, pour nous, ça pose un problème de sûreté. Donc, vous avez ce système des cultes reconnus. Au XIXe siècle, en France, il ne reste que l'Alsace et la Moselle, et vous avez, en Belgique, un système qui n'a jamais bougé. Maintenant, vous avez une question tout à fait particulière, c'est la question scolaire. La question scolaire, dont j'ai déjà dit un mot, est une question qui, en fait, s'est posée en France dans les années 1880, c'est la fameuse époque de Jules Ferry, et qui s'est posée aussi en Belgique. Et Jules Ferry a laïcisé l'enseignement primaire, c'est-à-dire qu'il a exclu l'instruction religieuse de l'enseignement dans les heures de classe. L'instruction religieuse ne pouvait pas se faire même dans les locaux scolaires et aux heures de classe, ou peut-être parfois dans les locaux scolaires, mais en tout cas pas pendant les heures de classe. Il a laïcisé le personnel, donc interdit aux membres des congrégations religieuses d'enseigner, de prendre la place des instituteurs, si vous voulez, et imposé aux instituteurs la neutralité. Ça, c'est dans les années 1880. Donc, bien avant, si vous voulez, c'est pour les enfants, mais c'est très important, parce que les enfants sont de futurs adultes. La loi de 1905, c'est pour les adultes, c'est la séparation des institutions, etc. Mais dans les années 1880, ça concerne l'école publique. Et à ce moment-là, on remplace en France l'instruction religieuse, qui était évidemment, parce que les religieux étaient très présents dans l'école, hein. Bon, ils étaient durant tout le 19e siècle, ils étaient toujours là, quoi, hein. C'était le système napoléonien, le leur permettait d'ailleurs, du moment qu'ils étaient obéissants à l'État. Et donc la Troisième République, à partir de 1870, commence à vouloir véritablement mener un combat contre cette présence religieuse et l'instruction religieuse catholique, même s'il y avait un certain nombre d'autres enseignements, c'était massivement catholique, évidemment, et donc on décide de rendre l'école neutre, d'expulser l'instruction religieuse, de la remplacer par une instruction morale et civique, et de laïciser le personnel aussi, de faire en sorte que ça passe. Alors, c'est intéressant quand même, je vais vous lire le débat, enfin, une ou deux citations du débat qui, dans les années 1880, a opposé le ministre Jules Ferry à son ministre, à son directeur de l'éducation. Donc, juste son inférieur dans la hiérarchie. Et c'est un débat important parce que, au fond, une fois qu'on dit, il n'y a plus d'instruction religieuse, l'instruction religieuse était, au fond, ce qui donnait aux enfants un cours sur le sens de l'existence, qui était religieux. Si on l'enlève, on la remplace par quoi? On sait très bien de dire instruction civique ou morale laïque, morale du Laos, du peuple. Oui, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que les instituteurs demandaient ça. Ils disaient qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et là, vous avez véritablement deux conceptions extrêmement différentes qui se manifestent. Alors, je vous donne d'abord la conception de Ferdinand Buisson. Buisson était le directeur de l'éducation de Ferry et qui est un des grands théoriciens de la laïcité. Et Buisson dit, l'Église est logique, donc puisque l'Église n'a plus le pouvoir dans l'école, l'Église est logique, il faut être avec elle ou contre elle. L'école laïque n'est pas une chose sans nom ou sans caractère, il faut opter ou l'école rationaliste ou l'école cléricale, il n'y a rien entre les deux. Donc c'est clair, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Le rationalisme. Et qu'est-ce que ça veut dire le rationalisme? Ben, ça veut dire l'idée suivant laquelle l'homme peut s'orienter dans l'existence à l'aide de sa simple raison. Et évidemment, l'Église hurle en disant « vous n'êtes pas neutre, vous privilégiez une conception rationaliste de l'existence qui nie la foi, donc vous êtes contre l'Église ». Et donc, les instituteurs vont corrompre l'âme de nos élèves, enfin c'est dans toute l'histoire et la littérature de France depuis cette époque-là. Et donc Buisson adopte une position qui est suivie par un certain nombre de laïcs, mais qui n'est pas celle de tout le monde. Et celle de Ferry est beaucoup plus accommodante. Il appelle ça la neutralité sereine, dans sa lettre aux instituteurs, très célèbre. Bon. Écoutez bien, parce que c'est quand même intéressant. Au moment de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, donc il dit ça aux professeurs, aux futurs instituteurs, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé par ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis bien un seul, présent à votre classe, donc il faut que le prof, ça doit être un peu terrorisant, il doit imaginer tous les parents dans la classe, hein. Bon, ça va être difficile à concilier. Donc un seul présent à votre classe pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il entendrait dire. Si oui, donc si vous pensez que ça peut choquer un d'entre eux, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment. Car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. Enfin, supposant que tous les parents sont dans la classe et qu'ils représentent la société, si aucun ne bronche, c'est que ça passe. Et vous allez savoir, évidemment, si vous êtes encore capable de dire quelque chose d'intéressant et si les choses qui, politiquement correctes, c'est exactement ça, donc ils sont corrects du point de vue, la polis, ça voulait dire cité en grec, donc c'était l'État, si vous voulez, ou la collectivité, les choses qui sont politiquement correctes ne choquent personne. C'est pas sûr que ce soit les plus intéressantes et que ce soit celles qui vont au fond. Alors, c'est sûr, plutôt le contraire. Le maître devra éviter comme une mauvaise action tout ce qui, dans son langage ou dans son attitude, blesserait les croyances religieuses des enfants confiés à ses soins. Tout ce qui porterait le trouble dans leur esprit, tout ce qui trahirait de sa part envers une opinion quelconque un manque de respect ou de réserve. Attention, c'est pour les instituteurs. Hein, je vous dirais que le politiquement correct aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi pour les adultes. Mais je veux dire, c'était déjà très, 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 très restrictif. Alors que Buisson disait, l'école rationaliste, vous allez renseigner le pouvoir de la raison, et les lumières, et la lutte contre la superstition, et les fariboles dans la Bible, etc. Enfin, des choses comme ça, bon. Hein. Ferry, c'est pas du tout ça. Hein. Ferry dit... Dites quelque chose, mais si vous imaginez tous les parents dans la salle et qu'un seul fronce le sourcil, vous imaginez ce que c'est quand on parle devant un auditoire comme ça, bon, ne le dites pas. Donc l'idée, c'était au fond d'arriver. Bon, c'était très respectable. Hein, je crois que c'est une conception qui est quand même une conception potentiellement limitatrice de la liberté. Parce que si vous faites ça, et surtout si vous l'étendez au secondaire, hein, bon d'accord, c'est des gosses, il faut peut-être pas introduire trop de polémiques pour les gosses à l'école primaire, il s'agissait de l'école primaire, mais enfin déjà, dire, abstenez-vous de le dire si vous vous apercevez que cela pourrait choquer un des parents, même pas les enfants, les parents. C'est un problème parce que l'école publique nécessairement choque les parents, puisque les parents ont leur conception dans la famille, et qu'ils envoient des enfants dans une école où il y a manifestement des enfants qui viennent d'autres horizons. Et alors c'est vrai qu'on essaye d'éviter de prendre parti, mais il faut aussi dire quelque chose. Et c'est beaucoup plus difficile pour un professeur ou pour un instituteur d'entrer dans les débats, et de rester quand même, de garder son rôle de professeur, c'est-à-dire de ne pas faire de l'embrigadement, d'essayer d'entrer dans les polémiques et en laissant quand même les gens, les élèves dans la salle, éventuellement les parents s'ils sont là, s'exprimer, quelque chose comme ça. Donc il y a eu manifestement dès le début cette idée, bon d'accord, on enlève l'instruction religieuse, ça, c'est, on savait ce que c'était, mais si on enlève l'instruction religieuse, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Et vous avez les deux positions, celle de Buisson et celle de Ferry, et qui sont évidemment caractéristiques de beaucoup de débats à l'heure actuelle. Hein? À l'heure actuelle, par exemple, le débat sur le foulard, souvent se formule comme ça. Certains qui disent l'école doit. Les jeunes filles, du moment qu'elles respectent les règlements, à supposer qu'elles le fassent, etc., elles peuvent porter leur foulard. Ce serait très choquant de dire aux parents que vous les forcez à enlever leur foulard à l'école, etc. Ça, ce serait plutôt la conception à la Ferry. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une conception à la Buisson et dire l'école doit enseigner la raison critique. Hein, et donc, nous ne voulons pas que le bruit du monde, les querelles religieuses, tout ça entre à l'école et donc pas de foulard à l'école. Peut-être. Bon. Peut-être. C'est difficile. C'est des problèmes qui sont... Enfin, moi, j'ai une opinion là-dessus, mais pour de toute autre raison. Mais on voit bien, donc, que cette laïcisation de l'enseignement public... à poser immédiatement le problème, qui est un problème beaucoup plus large que celui de l'école, c'est que quand on se débarrasse des religions, qu'est-ce qu'on met à la place? On dit ça souvent aujourd'hui, les gens ont une quête de sens, et bon, on n'a pas été capable de remplacer... Alors on n'aime pas les religions, parce qu'elle a le côté évidemment autoritaire, dogmatique, etc., dans toutes les religions, en même temps, il y a de la spiritualité, qu'est-ce qu'on doit faire avec les enfants? Donc c'est un élément important. Maintenant, je vais vous dire qu'en Belgique, ça s'est passé de la même manière, sauf que ça a avorté. C'est-à-dire qu'en Belgique, au début des années 1880, un gouvernement libéral a voulu faire la même chose, a légiféré dans le même sens que Ferry, en contact avec Ferry d'ailleurs. Et puis, évidemment, comme en France, l'Église a fortement réagi. Et quelques années plus tard, 1884, quelque chose comme ça, les catholiques ont gagné les élections, ils ont gardé le pouvoir jusqu'en 1914. Donc ils ont gardé pendant 30 ans le pouvoir. Et en 1914, quand il fallait faire des alliances, c'était avec les socialistes qui étaient arrivés entre-temps. Il n'y avait pas de socialistes avant. Et donc, enfin, de socialistes au sens de force organisée. Et donc, en Belgique, on n'est pas du tout arrivé à cette laïcisation de l'enseignement. Et donc la Belgique a suivi son petit bonhomme de chemin... jusqu'au pacte scolaire de 1958, à peu près à la même époque que la loi Debré en France, et on a décidé là que, en particulier, on enseignerait les cultes reconnus, dont la morale non confessionnelle, à l'école. Bon, donc tout ça vient d'un phénomène du XIXe siècle, c'est-à-dire de la perte des élections par les libéraux, qui ont peut-être mal présenté la chose, ou bien en Belgique, les conditions sociologiques n'étaient pas les mêmes, et donc on en est arrivé à ce système-là au XXe siècle. Je ne veux pas trop déborder sur le XXe siècle, parce qu'évidemment, sinon, je ne parle pas du XIXe, donc j'essaie de montrer un petit peu ce qui s'est mis en place. Et évidemment, dans tous les autres pays, c'est comme ça que ça se met petit à petit en place. Si vous analysez la situation de l'Angleterre, d'autres pays, etc., vous voyez le recul du caractère officiel et contraignant de la religion. Attention, quand Napoléon l'officialise, c'est pour la contrôler et c'est pas pour qu'elle soit qui est contrainte en matière de religion, parce que c'est de moins en moins possible déjà au XIXe siècle. Au Danemark, aujourd'hui, l'Église luthérienne est une Église d'État et c'est l'État qui impose à l'Église de donner tous ses services à n'importe qui, indépendamment de la religion, etc. C'est vraiment un service public, l'Église luthérienne. Donc, ça, c'est une évolution qui fait que malgré les différents systèmes, aujourd'hui, de toute façon, tous les pays européens doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, dans tous les pays européens, puisque le système de séparation à la française est exceptionnel, dans tous les pays européens, vous avez soit une ancienne église établie, soit des cultes reconnus et des choses comme ça, et donc, la plupart du temps, l'enseignement de la religion à l'école publique, parce que on sait, la religion, c'est fondamental, etc. Dans tous ces pays, quand on a gardé la religion enseignée à l'école publique, on a dû faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Ça veut dire, dans des pays, en Belgique, vous voyez, c'est les différents cultes reconnus, même la morale non confessionnelle. Dans des pays comme l'Espagne, bon, il y a beaucoup de débats en Espagne, donc c'est l'idée, bon, ben, on enseigne la religion catholique, mais les élèves peuvent aussi prendre un cours d'histoire des religions. Bon. Ou bien ils peuvent opt out, ils peuvent décider de ne pas suivre le cours. Mais ça, c'est dur pour les élèves parce qu'ils doivent se manifester, ils doivent dire qu'ils ne veulent pas rester dans la classe et des choses comme ça. Mais donc, petit à petit, la Cour européenne des droits de l'homme est très sensible à ça. Vous voyez l'affaire de crucifix, l'affaire Lao Tzu. Et donc, petit à petit, vous avez nécessairement, même quand il existe des cultes reconnus, même quand il existe des religions établies, il faut que tout ça se fasse en concordance avec la liberté de conscience et la non-discrimination. Comment on s'arrange et jusqu'à quel point il est permis de respecter des traditions dans lesquelles une religion est quand même plus ancienne, etc., etc. Hein, vous savez qu'en Italie, en particulier, le Vatican est très présent parce que l'État, pour des raisons historiques, à partir du Concordat, lui a légué tout un ensemble de services publics que l'Église met en œuvre. C'est aussi le cas en Allemagne, ça pose souvent de problèmes, parce que quand l'Église met en œuvre des services publics et puis qu'elle ne veut pas, je ne sais pas moi, distribuer la pilule ou quelque chose comme ça, ça pose des problèmes. Mais donc, il y a encore, si vous entrez dans les situations particulières, il y a à boire et à manger, et il y a des situations qui sont des situations très diverses. Mais le mouvement de fond, je dirais, encore une fois, on ne va pas épiloguer sur la place du primat de Belgique dans l'ordre protocolaire, ou le fait que le roi d'Angleterre doive être anglican, etc. Ce sont des choses qui effectivement, sont un peu des entorses à la laïcité, puisque quand même il y a quelque part une dimension d'une religion particulière qui intervient dans l'appareil d'État. Mais cette intervention est tellement, tellement, tellement symbolique que ça montre les progrès de la laïcité. Ça montre les progrès de la laïcité. Parce que dans les pays démocratiques, plus personne ne parle d'imposer une religion à quelqu'un. Et donc ce sont d'immenses progrès, mais bien entendu, d'abord il faut les maintenir, parce qu'il y a suffisamment de courants aujourd'hui dans le monde qui changent beaucoup et dans lequel l'Europe est loin d'être le centre, n'est même plus du tout le centre. Les États-Unis, c'est différent. Et dans lesquels, effectivement, les conceptions de la laïcité, si vous prenez les Chinois sont historiquement très anti-religieux, sauf les religions qu'ils contrôlent. Ils ont des églises qu'ils contrôlent eux-mêmes. Il y a les églises officielles que les catholiques véritables, par exemple, ne reconnaissent pas parce que, bon, sont totalement intégrés à l'appareil d'État en Chine. Mais les Chinois se préoccupent très peu des droits de l'homme, etc. Les musulmans ont une hostilité de principe à la laïcité qu'ils conçoivent comme un concept colonial imposé par les Occidentaux, etc., etc. En Israël, les juifs laïcs, qui sont sans doute majoritaires, les ultra-orthodoxes leur empestent la vie, faut bien le dire. La situation change beaucoup, donc tout n'est pas évident. Tout n'est pas évident. Il y a des combats et il y a des groupes qui sont parfois loin d'être négligeables et qui ne sont pas du tout en faveur de tout ça. Et donc, effectivement, le 21e siècle qui commence à ses spécificités, c'est pas nécessairement, bon, c'est pas l'apocalypse, mais il faut pas nécessairement baisser la garde. Donc il est 7h30, j'arrête, Ou des remarques, ou des interventions, on ne doit pas faire comme Jules Ferry,
Je remercie beaucoup Monsieur Archer pour ce brillant exposé. Je vois qu'il y a tout de suite des questions, donc.
Oui, bonjour, enfin bonsoir. À partir du moment où il y a des élus communaux qui sont de confession musulmane et qui essaient d'orienter à Bruxelles, il y a quelques mois, ça s'est passé comme ça, et qu'ils essaient d'orienter vers des coutumes qui leur est propres, est-ce que c'est anticonstitutionnel au départ, puisqu'il y a un devoir de neutralité? Donc logiquement, il devrait y avoir des sanctions.
Donc quand vous êtes conseiller communal, c'est-à-dire quand vous êtes élu du petit parlement qu'est la commune, comme quand vous êtes parlementaire au niveau régional ou quand vous êtes parlementaire au niveau national, vous n'avez pas une obligation de neutralité. Ah non. Regardez ce qui s'est passé avec Maïnu Rozdemir, qui a été élu au CDH à la région bruxelloise avec son foulard. Si elle portait une burqa, bien, ça c'est interdit, ça, c'est même interdit dans la rue. Mais le foulard, je veux dire, le signe convictionnel. Alors, à partir du moment où vous êtes représentant et que les gens vous ont élu et que vous considérez qu'il faut que la religion ait plus d'impact dans la société, vous pouvez le dire. Vous avez même le droit de défendre des conceptions qui seraient effectivement des conceptions inconstitutionnelles parce que vous avez la liberté d'expression. Alors, autre chose est d'aller trop loin. Par exemple, si vous tenez des propos racistes, ça, c'est pas permis parce que ça, c'est criminalisable. Mais quand vous êtes un élu du peuple, ben, vous proposez des choses et si les gens sont convaincus, ils sont convaincus. De toute façon, dès que ça entre en action, si par exemple il y a un règlement communal qui est voté et qui est anticonstitutionnel, il sera annulé par la Cour constitutionnelle et déjà par le Conseil d'État parce que c'est des affaires administratives. Alors, le problème se pose de double manière. Il y a effectivement des représentants, souvent des conseillers, parfois des échevins, donc l'exécutif, qui sont limites par rapport aux valeurs démocratiques et constitutionnelles. Alors, il y a deux hypothèses. Soit ils sont sur les listes, ils ont été élus sur les listes des partis, les socialistes, les chrétiens, les libéraux, enfin les chrétiens, les humanistes, les libéraux, les écolos, etc. Alors ça, c'est vraiment une responsabilité des partis de les mettre sur les listes. Hein. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Dans des communes, Bruxelles, il y a beaucoup de communes qui sont à majorité musulmanes. Alors, pour faire des voix, c'est plus facile d'avoir un type des mosquées, je dis un type parce que c'est toujours des hommes, quoi, des types des mosquées, que d'avoir quelqu'un qui, au contraire, est courageux, un musulman, libéral, etc., mais qui n'est pas très représentatif. Et donc, souvent, on n'est pas très regardant. Et alors, on n'est pas très regardant, ils sont élus. Alors ça, c'est la responsabilité des partis de faire ça. Et puis, alors, vous avez l'autre cas de figure, c'est des partis qui sont formés, comme le parti islam. C'est des types qui forment leur parti, et puis les gens votent pour eux. Et ils tiennent des propos. C'est vrai que quand vous écoutez les propos de ces types, ce sont des propos vraiment médiévaux, quoi. Bon. Maintenant, le problème, est-ce qu'il faut les interdire ? C'est difficile d'interdire des partis parce que les interdire au moment où ils font que des discours, puisqu'ils sont dans l'opposition et qui bon ils, effectivement je crois qu'il faut l'interdiction d'un parti c'est vraiment en démocratie c'est vraiment la chose ultime et il faut en démocratie accepter beaucoup de choses qui nous déplaisent. Ça fait partie de la liberté. La liberté d'expression, le droit au blasphème, etc. C'est qu'il faut accepter beaucoup de choses qui nous déplaisent parce qu'on ne vit pas dans un environnement où on n'aura que ce qui nous plaît. Et l'histoire de Ferry dans la société, c'est déjà pas applicable dans la classe, mais vous n'imaginez pas que dans la société, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire doit plaire à tout le monde. Donc, maintenant, s'ils vont trop loin, si ça devient des propos, d'abord des propos racistes, ils se font condamner, comme le type de charia for islam, mais ça c'est encore, c'est for Belgium, ça c'est encore plus radical. Alors on peut durcir la législation aussi et interdire à des représentants de tenir des propos qui seraient frontalement contre la Convention européenne des droits de l'homme, etc. On peut faire ça, effectivement. Il faut bien voir ce qu'on vise. Hein. Il faut bien voir ce qu'on vise. On vise pour le moment un groupuscule. Hein. Et ce qu'on n'aimerait pas, c'est que ce groupuscule capitalise sur le ressentiment. Si vous en faites des martyrs, ça c'est magnifique. Regardez les frères musulmans. Et qui gagnent aujourd'hui en Égypte et en Tunisie, ils ont été massacrés par le régime Ben Ali et le régime Moubarak, ça leur a servi. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça leur a bien servi. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc comment est-ce qu'on fait ? Je dois dire que j'ai participé à des auditions parlementaires et que je crois qu'il faut bien réfléchir. Je ne suis pas contre, parce que je sais très bien qui sont ces gens-là, mais il faut bien réfléchir aux meilleurs moyens de lutter contre un phénomène comme ça. Et quand le phénomène n'est pas important, il faut faire attention. Bien sûr, vous avez l'argumentation de ceux qui disent « Oui, ça, c'est la pente glissante. Au début, Hitler était un groupuscule dans les années 20, et regardez, etc. » Je sais. Enfin, bon, voilà, il faut tenir compte de ça aussi. Et il faut aussi on peut agir net. Par exemple, la loi contre la burqa est quand même une loi qui est une loi très dure, qui vient d'être considérée comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Et moi, j'ai écrit un article sur Justice en ligne. Si vous tapez Justice en ligne, pour dire qu'à mon avis, c'était une bonne décision. Enfin, ils s'en fichent sans doute de mon avis, mais je dis de mon avis comme ça, bon. Je trouve que il y avait des recours en termes de liberté de conscience, de neutralité de l'État. Pourquoi est-ce qu'on empêche les femmes de s'habiller d'une manière ou d'une autre, etc. Et des choses comme ça.
Peut-on voir une tentative de laïcisation de la société dans les utopies socialistes du XIXe siècle qui se veulent en principe égalitaire, ou bien est-ce que cela n'a rien à voir ?
Non, ça a beaucoup à voir parce que la question de la religion, en particulier en Europe, a toujours été centrale, d'autant que la religion a été considérée la plupart du temps comme étant du côté des oppresseurs. Bon. Ce n'est pas vrai. Au XXe siècle, sûrement pas. Vous avez des prêtres, les théologiens de la libération en Amérique latine. Vous avez beaucoup de les prêtres ouvriers qui sont plutôt de l'autre côté. Mais l'institution de l'Église, en particulier de l'Église catholique, a été considérée comme étant du côté de l'oppression, du conservatisme. Surtout quand au XIXe siècle, il y a eu tout ce mouvement ultramontain, c'est-à-dire l'Église qui prend ses ordres de l'autre côté des montagnes, c'est-à-dire au Vatican. Et là, effectivement, il y a eu donc le combat social était en même temps très hostile à l'Église, qui était considérée comme la garante de l'ordre social qu'on considérait comme un ordre social inégalitaire. Ça veut dire que les socialistes n'étaient pas, enfin les différents courants socialistes n'étaient pas spécialement laïcs, ils étaient plutôt anti-religieux et pas neutres. Et donc, quand Marx disait « la religion, c'est l'opium du peuple », dans une œuvre de jeunesse, donc il disait c'est l'opium du peuple, c'est-à-dire que quelque part la religion endort les individus. Elle croit que le monde est une vallée de larmes et qu'ils doivent accepter leur situation et que tout ça se réglera sur le plan transcendant, alors qu'ils ne voient pas qu'il y a possibilité de changer les choses maintenant et de s'attaquer à leurs oppresseurs, c'est-à-dire à l'alliance du capital et de l'Église et des choses comme ça. Donc les socialistes ont été, d'ailleurs ça change aujourd'hui, avec l'islam ou avec autre chose, les socialistes ont été très, très, très anticléricaux. Et anticlérical, c'est normal, tout le monde peut être anticlérical. Mon ami Gabriel Ringlet dit qu'il est anticlérical. Parce que qu'est-ce que c'est que le cléricalisme ? C'est je suis le clerc d'une religion et je voudrais que ça s'impose à tout le monde. Le pouvoir des clercs. Les clercs ne doivent appartenir qu'à leur religion. Mais entre l'anticléricalisme et la critique de la religion... Il y a une limite comme ça. Et donc, à la fin du XIXe siècle, en plus, avec l'idée du scientisme, c'est-à-dire la croyance à ce que la science résolve tous les problèmes. Bon, la devise de mon université, c'est « la science vaincra les ténèbres ». Bon, c'était un peu ronflant, quand même. C'est-à-dire un mot d'ordre utilisé très souvent depuis l'époque des Lumières. Donc, je dirais que les socialistes, après... sont devenus laïcs au sens où tout le monde a accepté qu'il fallait que l'État soit neutre, etc., et qu'il ne fallait pas persécuter les religieux comme les staliniens l'avaient fait. Mais c'est toute une histoire. Et au XIXe siècle, le mouvement socialiste est un mouvement fortement anti-religieux. L'idée qu'on puisse être à la fois religieux et vouloir la révolution sociale est une idée qui existe. Il existe, il y a un mouvement démocrate chrétien qui se développe, mais il est minoritaire, hein, et qui se développe à l'intérieur de l'Église pour dire que l'Église se fourvoie totalement si elle applique l'Évangile en étant du côté des puissants et pas des autres. Ça, c'est tout un mouvement. Mais en général, le mouvement socialiste est très... Bon, à partir de Marx, il est très... la religion est chose du passé. Et d'ailleurs, moi, quand je faisais mes études, vous allez dire, ça fait un certain temps... à l'école, parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire du foulard, les écoles de Bruxelles utilisent des vieux règlements qui interdisaient les signes politiques et religieux à l'école. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on a les signes religieux, tout le monde s'en foutait. Donc, il n'y a pas un d'entre nous qui disait on peut pas porter, qui aurait eu l'idée de porter un signe religieux, c'était une chose du passé. Ce qui importait, c'est les signes politiques, la guerre du Vietnam, et on se faisait arrêter par le concierge parce qu'on avait un signe, etc. Enfin, c'est un peu partie du jeu. Bon, mais l'idée que la religion et la laïcité, moi qui viens d'une famille laïque, franc-maçon, etc., la laïcité, pour moi, c'était vraiment... C'était une notion de compromis. Bon, d'accord, la neutralité, mais on ne voulait pas la neutralité, on voulait la transformation radicale. Et les mouvements socialistes ont été longtemps comme ça, si vous voulez. Bon, à cette époque-là, ils étaient quand même très embourgeoisés, et donc très, quand même, le pacte scolaire, c'est quand même, ça a été permis aussi par les socialistes. Bon, ils ont accepté. Donc, mais je dirais que la conversion des socialistes à la laïcité, plutôt qu'au combat anticlérical, bouffeur de curés, c'est quand même relativement récent.
Moi, je voudrais poser une question sur le point du blasphème. Parce que on voit bien comment il va dans l'idée de la neutralité, mais en même temps, la démocratie, c'est aussi la liberté de parole.
Oui.
Et de critique. Et notamment maintenant, où il y a une volonté de l'Union européenne, un débat pour éventuellement légiférer là-dessus. Je voudrais savoir votre position et comment... vous interprétez cette question du blasphème.
Oui, donc je vous dirais, bon, il y a un débat en Europe, et je suis certain qu'on ne légiférera jamais là-dessus, parce que c'est la guerre en Europe. Hein, les Français, les Belges, beaucoup n'accepteront jamais ça. Maintenant, c'est une question très importante, parce que, au fond, le blasphème, donc, est une injure adressée à Dieu. Du temps où il y avait une religion officielle, il n'y avait qu'une seule religion, et donc les représentants d'une seule religion, et comme la religion était, l'Église était un peu au sommet de l'État, hein, l'attaque contre Dieu était un crime majeur. Hein, le dernier qui ait été condamné pour blasphème, c'est le chevalier de la Barre, à la fin du XVIIIe siècle, que Voltaire n'a pas réussi à sauver, qui a été écartelé. On l'a accusé d'avoir profané une statue, semble-t-il, c'était pas lui d'ailleurs. Mais bon, c'était blasphème, c'était très grave. Maintenant, au fil de l'histoire, c'est la dernière condamnation pour blasphème d'ailleurs en France, au fil de l'histoire, évidemment, ces condamnations pour blasphème sont devenues de plus en plus légères, c'est-à-dire de plus en plus conformes à l'adoucissement des peines, à un système pénal moderne, etc. Et puis, il y a eu surtout le fait que dans la mesure où c'était l'évolution du XIXe siècle, il y a eu de plus en plus de pluralisme, mais nécessairement, il devenait difficile de demander à l'État de sanctionner le blasphème, parce que quand vous avez plusieurs religions, bon, ce qui est vérité pour l'un est blasphème pour l'autre. Si vous êtes ouvert, vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses. Mais si vous êtes vraiment très intransigeant et littéraliste, bon, pour un chrétien, les juifs et les musulmans n'acceptent pas la divinité de Jésus. C'est blasphématoire. Jésus, d'ailleurs, était lui-même un blasphémateur. Un athée, évidemment, qui nie l'existence de Dieu. Pour les musulmans et les juifs, l'incarnation de Jésus, c'est une atteinte à la transcendance de Dieu, puisque Dieu se fait homme, etc. Et évidemment, ça consiste à dire, écoutez, ces questions, c'est très bien, ça fait partie de vos conceptions, mais ça ne doit pas... L'État ne va pas intervenir là-dedans, quand même. Hein. Bon, ça, c'est l'idée. Ça n'a jamais été véritablement tranché. Il existe dans certains pays européens encore des lois contre le blasphème. Il en existe en Autriche, il existe en Angleterre, pas en France et en Belgique, il n'y en a pas. Des lois contre le blasphème. Et ça a donné lieu à des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Que la Cour européenne des droits de l'homme est la garante des droits de l'homme, donc de la liberté d'expression. Et donc, évidemment, au nom de la liberté d'expression, on a dit c'est pas possible de se faire condamner. Et il y a des condamnations, pas des condamnations à l'écartèlement, mais des censures. C'est-à-dire, un film a été, par exemple, un film autrichien qui s'appelait Le Concile d'amour, qui est un film qui était très, très virulemment anticatholique, etc., est un film qui a été saisi et confisqué en Autriche, donc on n'a pas pu le voir, à Innsbruck. Dans la partie occidentale de l'Autriche, très catholique, et l'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'ailleurs, à ma grande déception, a dit que l'Autriche n'avait pas violé la Convention. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne formule plus les choses de la même manière. Vous voyez, le blasphème, c'est une attaque contre Dieu. Si vous allez jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, vous devez changer la formulation, la qualification, parce qu'elle ne protège pas Dieu, elle protège les individus. Donc vous dites que c'est un manque de respect dû aux croyants. Si vous insultez Dieu, vous ne respectez pas les croyants, vous les offensez. Et si vous les offensez gratuitement, trop fort, si vous allez trop loin, eh bien, dit la Cour européenne des droits de l'homme, l'Autriche a raison quand même de pouvoir limiter la liberté d'expression. Alors, moi, je me rappelle que j'ai dû faire un commentaire de cet arrêt, avec d'ailleurs mon collègue Francis Rigaud de l'UCL. Au vitriol, on l'a attaqué, cet arrêt, hein, parce que c'était aberrant, cette histoire-là. Alors qu'aux États-Unis, depuis les années 50, la Cour suprême des États-Unis a dit qu'elle n'intervenait pas, et qu'elle a dit que si elle intervenait, la Cour serait comme une sorte de bateau ivre qui n'aurait plus de cap, et qui ne serait attiré que par les most powerful and vocal orthodoxies, par les orthodoxies les plus puissantes et ceux qui crient le plus fort. Donc, ce qui est très important, c'est de faire très attention au transfert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de formuler cette revendication de criminalisation du blasphème. Bon, les pays musulmans, ils vont le dire comme ça, ou les religieux radicaux vont le dire comme ça. Mais ici, on va le transposer en respect des croyants. Alors, je vous dis juste pour terminer ma réponse. En 1993... on a fêté à Genève le 300e anniversaire de la naissance de Voltaire. Voltaire habitait tout près de Genève, il habitait Ferney, enfin, comme ça, il pouvait passer la frontière s'il avait des ennuis. Et donc, il est considéré, très bien considéré par les Genevois. C'est pas un citoyen de Genève comme Rousseau, mais c'est presque, bon. Et donc, il y a eu toute une organisation. Et à un moment, en fait, quelqu'un qui n'était pas content dans le comité organisateur, c'est comme ça que ça s'est su, a dit « Nous avons voulu programmer la pièce Mahomet de Voltaire, Mahomet ou le fanatisme. » Et puis, il y a eu tellement de pression et de menaces et d'intimidation qu'on a décidé de ne pas le faire. Et moi, je dis « Je trouve ça insupportable. » Et en plus, il attaque Tariq Ramadan en disant « C'est Tariq Ramadan qui est basé à Venise, qui est basé à Genève et qui est là derrière. » Bon. Et Tariq Ramadan a répondu. Et il a répondu en disant « Vous n'avez rien compris. On vous dit que c'est de la censure. » Il dit « Non, c'est de la délicatesse. » Et pourquoi c'est de la délicatesse? Parce que simplement, c'est une façon... Il dit « Les musulmans ne sont pas prêts à recevoir une pièce tellement brutale, qui était d'ailleurs une attaque contre l'Église, parce qu'à l'époque, on faisait des attaques indirectes, hein, où on plaçait les interlocuteurs sur une autre planète, de façon à ne pas dire directement qu'on attaquait l'Église et le roi, parce que c'était quand même dangereux. » Enfin bon, c'était une très forte attaque contre l'islam. Ce qui est terrible, c'est que quand Tariq Ramadan... Supposons qu'on accepte l'argument du respect des croyants, c'est-à-dire vous n'avez pas envie d'être offensé par qu'on vous mette devant le nez des choses que vous n'avez pas envie de voir. Vous pouvez dire c'est mon droit. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas demander dans la rue que tout vous plaise. Mais, je veux dire, quelque part, quand c'est dans l'espace public et que vous ne faites pas d'acte de volonté, vous passez vous entrez dans un métro, nécessairement on a mis une affiche parce qu'on veut vous vendre quelque chose. Il faut plus se restreindre en ce qui concerne un public captif, c'est-à-dire un public qui ne peut pas ne pas passer par là et ne pas être confronté à l'image ou au discours, que quand il s'agit d'un film ou d'une pièce. Il faut faire un acte de volonté, ou pour lire un livre, vous l'ouvrez, il ne vous plaît pas, vous le fermez, vous allez voir une pièce, si vous faites l'acte de volonté, et si ça ne vous plaît pas, ben vous partez, ou pareil pour un film et des choses comme ça. Et donc, l'argument du respect ne vaut que si les gens sont, sans qu'ils aient manifesté la volonté, confrontés à ça. Mais il n'était pas question de ça. La publicité était une publicité qui était... Enfin, ils voulaient mettre ça dans un programme, il ne s'agissait pas de montrer des images. Le Mahomet de Voltaire était parmi d'autres pièces et tout le monde avait le droit d'écrire dans les journaux, d'aller surtout pas voir cette pièce, elle est horrible, etc. Ça, pourquoi pas? Mais de faire pression sur les organisateurs pour qu'ils s'autocensurent. Et l'autocensure, théoriquement, on ne sait rien de ça, sauf qu'évidemment, il y a quelqu'un qui ne l'acceptait pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très troublant. Alors donc, il faut lutter contre la volonté de criminaliser le blasphème. Ça, c'est terrible. Vous savez, le problème, on dit toujours, mais pourquoi, au fond, critiquer de façon tellement impertinente? Mais tout simplement parce que, entre la on peut avoir beaucoup de respect pour la religion tant que ce n'est pas du cléricalisme. Bon. Mais entre la loi de Dieu et la loi démocratique, il y a toujours des conflits. Et donc, la démocratie et la laïcité se sont conquises par des combats. Et pour ça, il faut qu'il y ait une liberté d'expression, même s'il ne faut pas aller mettre devant le nez des gens des choses qui véritablement les choquent. Mais parler de délicatesse pour quelque chose que les gens ne sont pas obligés d'aller voir, je trouve que c'est un sophisme.
D'autres questions? Dans ce cas, je remercie encore beaucoup M. Archer.